Un excellent week-end. À la prochaine.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Eric Manirakis dans la présentation de cette édition du vendredi 23 avril 2021. Voici d'abord le sommaire. Funérailles nationales du président tchadien Idriss Déby Itno. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs chefs d'État en N'Djamena. La communauté internationale a réagi différemment lors du putsch au Mali et semble accepter le coup d'État au Tchad.
Vu la manière dont les militaires maliens sont venus au pouvoir, nous pouvons dire qu'ils ont achevé un travail qui était déjà commencé. Et comparativement à celle du Tchad, les cas sont différents.
Et chaque pays a ses réalités et les contextes sont aussi différents.
L'Union africaine a condamné la prolongation du mandat du président somalien. Joe Biden se rendra au Royaume-Uni et à Bruxelles en juin prochain. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le président tchadien Idriss Déby Itno a été inhumé ce vendredi dans l'intimité familiale à Amjamaras, dans l'est du pays, une bourgade qu'il a vue naître. Peu avant son inhumation, sa dépouille a reçu les hommages d'une quinzaine de chefs d'État sur la place de la Nation à N'Djamena. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
Il est 10h à N'Djamena lorsque la jeep de l'état-major de l'armée nationale dépose la dépouille mortelle du président Déby couvert de drapeau national. L'émotion est à son comble.
Vous comprenez tous ce que ressent une mère qui perd son fils et ce que vit une femme qui perd son époux.
Inda Déby, l'épouse du président de Saint, elle retient difficilement ses larmes.
Cher époux, la vie a décidé de votre départ et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. Le Tchad vous aime encore et à jamais. Que Dieu vous couvre en ce mois saint de sa grande bonté.
L'adieu suscite une grande émotion dans l'assistance. Pour cet ultime hommage à un président guerrier tombé arme à la main, la population est sortie nombreuse. Pour Mohamed Zen Bada, secrétaire général de sa formation politique, Idriss Déby Itno est l'incarnation de la stabilité.
Le MPS perd un véritable leader, un homme charismatique, un homme de conviction et d'engagement qui a su conduire à de grandes victoires. Je dirais tout simplement un chef qu'on ne connaîtra jamais.
Idriss Déby Itno était âgé de 69 ans, dont 30 au pouvoir. Lundi, il a succombé de suite de ses blessures selon la version de l'armée. C'était au lendemain de sa réélection à l'issue d'une élection présidentielle controversée avec 79,32%. André Kodumajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Son autre fils, Abdelkarim Idriss Déby, a fait l'éloge émouvant de son père.
Mesdames et messieurs, distingués invités, on vient au monde pour mourir un jour. Le président Idriss Déby Itno, notre père, est physiquement mort. Le soldat et maréchal Déby s'en est allé heureusement dans des conditions réservées aux grands guerriers. Il n'existe pas de mort sans peine pour les proches du défunt. Mais il est des morts qui rendent fiers les vivants malgré la douleur liée à la disparition de l'être aimé. Nous sommes fiers de toi, cher père.
21 coups de canon ont été tirés et des honneurs militaires ont été rendus à celui qui avait été élevé au rang de maréchal du Tchad le 11 août dernier. La France a promis son soutien à la junte militaire dirigée par Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président tchadien, pour préserver la stabilité de son allié dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Extrait du discours du président français Emmanuel Macron.
La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés.
Le Congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, lui a rendu aussi un dernier hommage.
Chers frères et sœurs tchadiens, puisse le sacrifice consenti par son Excellence, le Président Idriss Déby Itno, cimenter votre unité et votre attachement aux valeurs démocratiques et constituer le terreau de l'essor et du développement de votre chère République. À ce titre, soyez assurés de l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale de votre pays.
Le président Alpha Condé de la Guinée a fait également le déplacement à Suve.
Le président Déby a montré son attachement à l'Afrique en versant le sang de son peuple sur les différents champs de bataille africains. Mais le moment n'est pas de parler. Le moment est de voir comment nous, les chefs d'État, en suivant l'exemple du président Déby, nous allons pouvoir nous donner la main afin de renforcer l'unité de l'Afrique, de renforcer son indépendance et de permettre qu'elle continue à parler d'une seule voix.
Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, dont la FIDH, ont fait part vendredi de leurs inquiétudes face à la situation politique au Tchad, qui semble davantage s'apparenter à l'organisation d'une succession pour la poursuite de l'accaparement du pouvoir. Le fils du défunt, président Idriss Déby, a pris la tête d'un conseil militaire de transition. Le chef d'État du G5 Sahel pourrait désigner le président du Burkina Faso pour assurer l'intérim à la tête de l'organisation régionale dont le Tchadien Idriss Déby Itno, décédé cette semaine, assurait la présidence tournante, a indiqué vendredi un expert proche du G5 Sahel. Les textes du G5 Sahel ne prévoient rien en cas de décès d'un chef d'État qui exerce la présidence, a déclaré sous le couvert de l'anonymat une source au sein du secrétariat permanent de l'organisation à Nouakchott, la capitale mauritanienne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président nigérien Muhammadu Buhari a condamné la tuerie de dizaines de villageois dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Dans le nord du Nigeria, trois de la vingtaine d'étudiants enlevés mardi soir à Kaduna ont été exécutés par leurs ravisseurs. Le Liberia a assuré vendredi la Côte d'Ivoire de sa pleine collaboration après l'attaque d'un camp militaire à Abidjan par des hommes armés, dont de porter des papiers d'identité libériens. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine condamne dans un communiqué l'extension du mandat du président somalien voté le 12 avril par le Parlement après des mois de crise sur la tenue d'élections en Somalie. Nathalie Barge.
Repousser les élections sape la stabilité du pays, indique le Conseil de paix et de sécurité, exprimant son inquiétude sur l'impact possible sur l'unité de l'armée. Le Conseil demande à la Commission de l'Union africaine de dépêcher un envoyé spécial en Somalie pour trouver un compromis mutuellement acceptable. La Somalie traverse une crise politique depuis l'an dernier, marquée par son incapacité à organiser des élections fin 2020. Le 12 avril, les députés ont voté une loi prolongeant de 2 ans le mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed jusqu'à la tenue d'une élection au scrutin universel direct en 2023. Un accord a été conclu le 17 septembre entre le président et des délégués régionaux. Ces derniers devaient élire les parlementaires qui voteraient ensuite pour le président. Pour le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, cet accord demeure la base et la voie la plus viable pour la tenue en temps opportun d'élections crédibles et transparentes en Somalie.
L'ONG Human Rights Watch a demandé vendredi aux autorités camerounaises une enquête crédible sur des soupçons de détournement dans la gestion des fonds alloués à la lutte contre le coronavirus. En RDC, plus de 70 présumés miliciens séparatistes ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi à Lubumbashi, capitale de l'ex-grand Katanga minier dans le sud-est du pays, a-t-on appris vendredi de sources militaires. Des associations et des rescapés du génocide au Rwanda s'appuient sur le rapport du Clerc qui a pointé l'échec profond de la France lors des massacres de Wisesero en juin 1994 pour réclamer un procès en complicité de génocide contre des officiers généraux et l'entourage du président François Mitterrand. Les associations Survie, Ibuka, FIDH et six rescapés de Wisesero, partie civile, demandent au juge d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal de Paris de relancer leurs investigations. Depuis 2005, les plaignants accusent la force militaire française turquoise déployée au Rwanda sous mandat de l'ONU pour faire cesser les massacres, d'avoir pendant 3 jours sciemment abandonné aux génocidaires des centaines de Tutsis réfugiés dans les collines de Wisesero, c'est dans l'ouest du Rwanda. Des vaccins contre le Covid vont arriver d'ici 15 jours, a annoncé le ministre de la Santé malgache Jean-Louis Rakotovao à Nitrala, sans en préciser le nombre. Il s'agit des vaccins Covishield d'Oxford, AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm et Johnson & Johnson, a-t-il détaillé, et ses premières doses sont destinées au personnel de santé et de police d'État malgache, mais de moins en moins en avant les vertus de la tisane à base d'Artemisia lancée en grande pompe il y a 1 an. Il réquisitionne hôtels et écoles pour accueillir des patients Covid face à des hôpitaux saturés. Le président américain Joe Biden effectuera mi-juin son premier déplacement à l'étranger au Royaume-Uni puis en Belgique, a annoncé vendredi la Maison-Blanche. Monsieur Biden participera au sommet du G7 du 11 au 13 juin en Cornouailles, c'est dans le sud-ouest de l'Angleterre, puis au sommet des leaders des pays de l'OTAN à Bruxelles le 14 juin. Joe Biden a proposé la semaine dernière à son homologue russe, lors d'un entretien téléphonique, de se rencontrer cet été dans un pays tiers pour un sommet visant à stabiliser les relations entre les deux puissances rivales qui sont au plus bas. Moscou a manifesté son intérêt pour cette offre. La Finlande et l'Autriche se sont notamment dites prêtes à l'accueillir. L'armée russe a entamé vendredi le retrait de ses troupes massées depuis des semaines près de l'Ukraine, un déploiement qui a provoqué un regain de tension avec l'Occident et soulevé la crainte d'une attaque contre Kiev. L'opposant russe à emprisonné Alexei Navalny a annoncé vendredi cesser sa grève de la faim débutée il y a 3 semaines pour dénoncer ses conditions de détention suscitant des inquiétudes pour sa santé et des tensions russo-occidentales. La veille, des médecins proches de M. Navalny, dont son médecin personnel, l'avaient exhorté à arrêter immédiatement sa grève de la faim, disant craindre sa mort ou des dommages considérables pour sa santé s'il continuait. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, c'est la page des sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. On commence par du football dans le groupe A de la phase de poule de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ali Benghazi a battu jeudi soir 1-0 les Nigériens d'Enigma. Cette victoire permet à Al Ahly de Benghazi de reprendre la seconde place du classement avec 7 points. Juste derrière les Sud-Africains d'Orlando Pirates, 9 points. Enigma pointe à la 3e position avec 6 points. L'effectif ferme la marche. La 6e et dernière journée prévue ce mercredi sera décisive pour déterminer les 2 clubs qui iront en quart de finale. L'effectif accueille Ali Benghazi dans un derby maghrébin, alors qu'Enigma affrontera à domicile Orlando Pirates. En Europe, l'Union européenne de football examinait ce vendredi un comité exécutif ses options pour solder le dossier de l'éphémère Super League, sans annoncer pour l'heure des sanctions contre les 12 clubs dissidents ayant imaginé cette compétition privée censée supplanter la Ligue des Champions. En l'espace de 48 heures, entre dimanche soir et mardi soir, le football européen a frôlé l'implosion sous la menace de la création par ces 12 clubs anglais, espagnols et italiens de leur propre tournoi quasi fermé avant qu'ils ne jettent l'éponge face à l'ampleur du tollé.
C'était les sports de Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Les chefs d'État de la sous-région n'ont pas eu la même réaction au Tchad que lors du coup d'État au Mali. Les contextes sont bien différents, mais à Bamako, beaucoup se demandent pourquoi l'armée malienne a été sommée de remettre la gestion de la transition au civil. Tandis qu'au Tchad, la junte militaire reçoit des soutiens de la communauté internationale. Micro-trottoir à Bamako avec la Missa Sangaré.
Vu la manière dont les militaires maliens sont venus au pouvoir, nous pouvons dire qu'ils ont achevé un travail qui était déjà commencé. Et comparativement à celle du Tchad, les cas sont différents. Les militaires se sont retrouvés au pouvoir juste après le décès du président tchadien.
La différence existe à ce niveau.
La différence existe à ce niveau-là, je veux dire. Les militaires sont là toujours pour continuer le travail que le président tchadien avait déjà commencé. Juste pour que le Tchad puisse rester toujours stable.
Chaque pays a ses réalités et les contextes sont aussi différents. Le Mali a une expérience par rapport à tout ça. 2012 avec Amadou Aya Sanogo, nous avons vu les impacts de ce coup d'État parce qu'au début, les militaires étaient aux affaires. Connaissant le passé, c'est ce qui fait que les gens ont peut-être des réticences à confier la gestion aux militaires. Contrairement, ça c'est mon avis personnel, Tchad est un pays où, qui est dans un contexte et dans une situation très difficile aujourd'hui parce qu'il y a des groupes armés qui ont pris les armes pour la libération du pays. Un pays en guerre, les militaires, s'ils ont la maturité d'esprit, ils peuvent mieux gérer la situation, contrairement aux civils.
Je vais tout simplement dire qu'il y a eu un mauvais précédent au Mali.
Oui, c'est, à mon avis, c'est là où nous avons une expérience. Chaque fois que les militaires sont devant, à mon avis, il y a toujours des différents clans qui s'élèvent, qui prennent des armes contre les autres. Contrairement à Tchad, aujourd'hui, je crois que s'ils arrivent à faire l'union sacrée autour de l'armée pour gérer la crise actuelle, je crois qu'ils peuvent trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les rebelles ont gagné le terrain. Si on amène les politiciens en ce moment qui vont rentrer dans les calculs, dans les positionnements stratégiques, et ça va donner l'occasion à l'ennemi de s'installer davantage.
Moi, je pense que ce que les gens doivent comprendre, c'est que comment Idriss Déby même est venu au pouvoir. C'est différent du problème du Mali. Au Mali, c'est les militaires qui ont fait le coup d'État. La population aussi a décidé à ce que le président quitte le pouvoir. Quand nous prenons le cas du Tchad, moi je pense que c'est différent parce que le président est décédé. Il est décédé aussi au front. Ils veulent toujours progresser avec le système d'Idriss Déby. C'est pourquoi ils ont pris son fils pour le remplacer. La communauté internationale ne peut pas dire qu'il faut que le fils du président quitte le pouvoir ou bien il ne faut pas donner le pouvoir au fils du président parce qu'il y a ceci, il y a cela.
Donc, je veux dire que les Tchadiens ne veulent pas des ruptures dans le système de gouvernance d'Idriss Déby.
Effectivement, parce qu'ils ne veulent pas une rupture.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Un an après les manifestations contre le coup d'État au Mali, les victimes attendent toujours que justice leur soit rendue. Amnesty International dénonce la mort de 18 personnes tuées par balle avant et pendant le coup d'État du 18 août 2020. Les autorités de la transition affirmaient que le coup d'État s'était déroulé sans effusion de sang. Azuma Compaoré a joint Ousmane Diallo, chercheur pour Amnesty International, basé à Dakar, au Sénégal.
Ce rapport revient sur les événements qu'on a documentés l'année dernière, notamment les cas d'usage excessif et l'état de la France, dans le contexte des manifestations qui ont eu lieu non seulement à Bamako, mais aussi dans plusieurs villes du Mali comme Kaye et Sikassou, et où on a pu documenter des morts suite à des tirs par balles réelles. On se souvient tous des événements de Bamako à partir de juillet 2020, donc les 10, 11 et 12, où 14 personnes ont été tuées dans le contexte des manifestations, pour lesquelles une enquête a été ouverte par les autorités gouvernementales, et elle est toujours en cours à l'heure actuelle. Et l'élément le plus important, c'est la mort d'au moins 4 individus durant la journée du coup d'État, la soirée du coup d'État plutôt, suite à des tirs par balle. Donc des morts qui n'ont jamais été proprement reconnu par le Conseil national pour le salut du peuple, qui était l'organe militaire qui a remplacé le gouvernement démocratiquement élu depuis le président Ibeka.
Finalement, qui est responsable de tous ces morts dont vous avez parlé?
Les morts dont on a parlé sont les responsabilités tombent d'abord sur les forces de défense et de sécurité maliennes, donc la police, la gendarmerie, la garde nationale, surtout, mais aussi l'armée pour les événements du 18 août 2020. Et en même temps, l'obligation de rendre justice et de dire la vérité sur ces incidents-là et de s'assurer qu'ils ne se répètent plus incombe aux autorités maliennes, donc qui qu'elles soient. D'abord le gouvernement Ibeka, qui n'est plus au pouvoir depuis le 18 août 2020, mais les autorités de la transition doivent s'assurer que justice est dite et que la vérité jaillisse par rapport à ces différents cas d'usage excessif et l'état de la force qui ont eu lieu au Mali en 2020. Ils ont déjà commencé ce travail-là avec l'ouverture des enquêtes et l'appel à témoins pour les manifestations du 10, 11 et 12 juillet dernier, ainsi que pour l'ouverture des enquêtes pour les manifestations de Kaï, qui ont entraîné la mort de 3 individus. Mais pour ce qui est de Sikasso et pour la journée du 18 août, la justice reste toujours à être dite et il n'y a aucune ouverture qui a judiciaire qui a été menée à l'heure actuelle, ce qui est très problématique pour nous. Pour Bamako, la soirée du coup d'État, il n'y a même pas de reconnaissance officielle. Donc il y a des certificats de décès qui sont délivrés et signés par les autorités administratives compétentes, mais il n'y a pas d'enquête par rapport aux circonstances de ces décès-là, ce qui contribue à alimenter le flou, élargir le fossé entre les familles des victimes et les autorités maliennes, qui ont l'obligation de s'assurer que la justice et la transparence sont dites au nom du peuple.
Ousmane Diallo, chercheur pour Amnesty International, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Burkina Faso, pour lutter contre le coronavirus, les autorités sanitaires ont mis en place des centres de triage, des sortes de checkpoints, un passage obligé pour tous les usagers des hôpitaux. Les cas suspects sont immédiatement isolés et pris en charge. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Tous les grands hôpitaux du pays possèdent des centres de triage. Ici à Dédougou, à plus de 230 km de la capitale, pour avoir accès au centre hospitalier régional, il faut montrer patte blanche. Prise de température, lavage de mains, gel hydroalcoolique. Les dispositifs sont bien fonctionnels. Docteur Alex Franck Sommé est médecin dans cet hôpital.
Il faut dire que l'unité de triage rassure quand même la population. Parce que si tu quittes une région, on te parle d'une maladie qui est très contagieuse, qui fait peur, tu viens dans un centre de santé qui est supposé être le centre de référence dans la région, et que tu ne vois pas voilà, une équipe qui semble s'occuper de ça, quand même, ça te fait peur. Mais si tu viens avant de rentrer, on te dit, lave-toi les mains, viens, on va te screener, voilà, ça rassure. C'est vraiment une plus-value.
Les cas suspects sont détectés à partir de ce centre de contrôle.
On va vous faire le screening. Le screening, c'est quoi? On prend votre température.
Gustave Dabiré est le directeur du centre hospitalier régional de Dédougou.
Et on essaie à partir de cette unité-là de voir si vous êtes un cas suspect ou bien un cas confirmé. Donc déjà, à partir de cette unité de triage-là, donc les agents du CHR peuvent suspecter quelque chose et puis maintenant aller à des examens approfondis à travers le test PCR qui permet de valider, de confirmer que tel individu qui présente tel signe, telle température est vraiment positif à la COVID-19.
Esther Souli est une habitante de Dédougou. Elle a déjà expérimenté ce centre de triage de l'hôpital.
On fait tout ça pour notre bien même quoi, pour nous protéger de la maladie à coronavirus, le lave-main et puis la prise de température, en tout cas ça nous aide beaucoup.
De retour à Ouagadougou, nous sommes au centre médical du quartier Kossodo. Le dispositif fonctionne là aussi. Mieux, l'hôpital depuis un moment réalise des tests de coronavirus, ce qui n'était pas le cas aux premières heures de l'apparition de la maladie.
Le prélèvement ici, alors, est convoyé au cours.
René Paré, technicien du génie sanitaire du centre de triage de Kossodo.
C'est le cours qui est chargé de répartir dans les différents laboratoires pour des analyses. Et 48 ou 72 heures après, il nous envoie, comme ça a été fait ici au CMA de Kossodo, il nous renvoie les résultats.
Ces dispositifs de vérification dans les grands centres de santé permettent de limiter la propagation du coronavirus tout en continuant la prise en charge des patients. Depuis le début de la pandémie, plus de 13 000 personnes ont déjà fait la maladie. 156 en sont décédées. Le Burkina est le seul pays de la sous-région à n'avoir pas encore lancé sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le gouvernement dit ne pas aller dans la précipitation et affirme que le comité de gestion de la vaccination est dans une démarche méthodologique, scientifique et de préparation en attendant les vaccins. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les nominations aux Oscars de cette année par l'Académie américaine des arts et des sciences sont les plus diverses. À l'approche de la cérémonie du 25 avril, Penelope Polou de la VOA s'est entretenue avec des experts. Son reportage est repris par Marius Mouhunga.
Un moment décisif alors que l'Académie américaine des arts et des sciences a nommé son groupe d'acteurs, des réalisateurs et des producteurs les plus diversifiés pour les Oscars de cette année.
I like you, come.
9 de 20 personnes nominées sont des gens des couleurs. Deux femmes, dont une de couleur, se disputent le prix du meilleur réalisateur. 70 femmes au total ont reçu 76 nominations aux Oscars. Les changements sociétaux peuvent avoir influencé la diversité aux Oscars, déclare la sociologue Andrea Press.
Les militants ont attiré l'attention et ainsi la prise de conscience s'est généralisée. Aussi, la démographie de la société américaine est en train de changer rapidement.
Dans la catégorie de la meilleure image, 5 des 8 nominés sont des femmes et des personnes de couleur. Judas et le Messie Noir, un drame historique sur l'injustice raciale et le meurtre dans l'Amérique des années 1960, est la première production au casting entièrement noir à être nominée. Le film a reçu 6 nominations aux Oscars. Minari, un film américano-coréen sur l'expérience des immigrés américains, a également remporté 6 nominations, dont une pour le tout premier acteur américain d'origine asiatique dans la catégorie du meilleur acteur et le tout premier sud-coréen dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle. Le réalisateur américain d'origine asiatique, Lee Isaac Chung, sera en compétition contre l'américano-asiatique Chloé Zhao pour le prix du meilleur réalisateur. Sound of the Metal a également reçu 6 nominations, y compris pour le meilleur acteur. Riz Ahmed est le premier acteur musulman à recevoir une telle reconnaissance. Ahmed incarne dans le film un batteur devenu sourd. Viola Davis est une autre actrice de couleur à recevoir une nomination. Dans le biopic des Black Bottom de Ma Rainey, jouant aux côtés de Bebe Chadwick Boseman, la star de Black Panther, pourrait recevoir un Oscar du meilleur acteur à titre et posthume. Andra Day a reçu une nomination pour son rôle principal en tant que Billie Holiday dans le biopic Les États-Unis contre Billie Holiday. Peu importe qui gagne, la diversité à Hollywood est là pour rester. Ils peuvent tous dire qu'ils ont été nominés aux Oscars dans leur domaine. Et cela en soi, c'est déjà réel. Une énorme distinction. Cela change l'ampleur du pouvoir dont vous disposez, vos marges de manœuvre, la capacité à faire avancer les choses.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Michel Joseph, Joselle Morissin, Lionel Ndamira Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Eric Manirakis a été à la présentation. Merci pour le monde d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.
Vous
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.